Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre, D'un jardin à l'autre, de Frédéric Baudin, Culture Environnement Média, CEM Aix-en-Provence. Je vous propose de faire d'abord connaissance avec Frédéric Baudin, son auteur, en lisant pour vous la quatrième de couverture du livre que je viens de vous annoncer. Trois personnes de différentes obédiences nous le présentent en dévoilant aussi un peu de ce que nous lirons dans nos émissions suivantes. Frédéric Baudin, écrivain et conférencier, a reçu une formation universitaire en géographie et écologie. Sorbonne, Panthéon, Paris, Faculté des sciences Saint-Jérôme, Marseille, en lettres modernes et en théologie, Faculté des lettres, Université de Provence, Faculté libre de théologie réformée, Aix-en-Provence. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un roman, En quête de l'infime, prix des auteurs protestants décerné par la cause en 1998. Membre fondateur de la branche française de l'organisation internationale AROCHA, protection de l'environnement dans une perspective chrétienne. Il dirige actuellement l'association Culture Environnement Média, CEM. Nous avons parlé de AROCHA. Voici ce que AROCHA nous en dit. Ces dernières années, Frédéric Baudin a consacré une grande partie de son temps à réfléchir à la question complexe et fondamentale de nos relations avec la création. Nous avons désormais la possibilité de retirer le bénéfice de cette réflexion. Nous pouvons le suivre dans les jardins où il nous entraîne, qui sont autant de métaphores d'un monde marqué par la réalité du mal, mais dont la beauté demeure toujours vivifiante. Peter Harris, AROCHA International. Et enfin, Henri Blocher, un théologien, qui par ailleurs a écrit la préface que nous lirons tout à l'heure. C'est toute la Bible que Frédéric Baudin fait lire sous l'angle jardinier, en usant du thème de façon tantôt plus littérale, tantôt plus métaphorique. Fait lire, ou plus exactement, fait méditer. Cet exercice trop oublié, mais que plusieurs redécouvrent aujourd'hui, facilite l'assimilation de la parole de Dieu dans l'intériorité du croyant. La méditation est une sorte de rumination, mais non pas brute, pétillante au contraire d'intelligence ou d'écoute musicale ou de synthèse des résonances de la parole sur tous les registres de l'être personnel. Elle se tient à la jointure de la théologie et de la spiritualité. Elle assure le rôle de l'interface. Méditer, la parole habite le cœur. Méditer, la parole nourrit. Méditer, la parole rayonne la joie. Elle réjouit et elle nourrit comme les fleurs et les fruits du jardin. Il faut méditer avec Frédéric Baudin sur les jardins et dans les jardins de l'écriture. Henri Blocher, théologien. Nous allons maintenant lire justement la préface qu'il a écrite. Il faut entendre Frédéric Baudin parler flore et parfois faune, science des sols et climatologie. Sa formation scientifique donne la main à sa passion du vivant. son expérience de secrétaire général pour la France de l'association écologique Arocha, d'inspiration chrétienne, qui mène de remarquables études sur les écosystèmes comme aussi des actions efficaces pour préserver les sites menacés, a aiguisé ses compétences. Il fait briller, pour le dire, une maîtrise de la langue qu'un prix littéraire a déjà couronnée. Il faut entendre Frédéric Baudin expliquer la beauté de la ville la plus humble, au bord d'un ruisseau, dans l'une de nos forêts, au creux d'un rocher orienté au sud-est, dans le coin d'un de nos jardins. Il n'est donc pas si surprenant, malgré l'originalité du propos, qu'il ait choisi d'évoquer le contenu de la Bible entière en y décrivant une grande enfilade de jardins. L'Écriture sainte, pour lui, seul nourricier de la vie suréminente, et qu'il fréquente dans ses originaux, en particulier en hébreu, ne commence-t-elle pas son récit dans un jardin ? Jardin fatal, Genèse chapitre 2 et 3. Le combat le plus inouï de l'histoire. Quand Jésus, le Fils, a lutté dans l'angoisse et la sueur de l'angoisse contre la tentation de se soustraire à l'indicible épreuve, ce combat ne s'est-il pas déroulé dans un jardin ? Matthieu 26 est parallèle. Et la révélation de la victoire n'a-t-elle pas éclaté dans le jardin ? Matthieu 28 est parallèle. C'est toute la Bible que Frédéric Baudin fait lire sous l'angle jardinier, en usant du thème de façon tantôt plus littérale, tantôt plus métaphorique. Fait lire, ou plus exactement, fait méditer. L'ouvrage de Frédéric Baudin ne relève pas des genres courants. Il ne propose pas un commentaire exégétique ou critique pourvu de nombreuses références en notes. Les notes qui agacent souvent le lecteur pressé sont indispensables lorsqu'il s'agit d'un texte didactique. Ce n'est pas ici le cas. Il ne flatte pas le goût, parfois paresseux du public, pour les historiettes amusantes ou palpitantes. Son texte, à l'expression classique, fluide et sobre, ressortit à la méditation. Cet exercice, trop oublié, mais que plusieurs redécouvrent aujourd'hui, facilite l'assimilation de la parole de Dieu dans l'intériorité du croyant. La méditation est une sorte de rumination, mais non pas brute, pétillante au contraire d'intelligence, ou d'écoute musicale, ou de synthèse des résonances de la parole sur tous les registres de l'être personnel. Elle se tient à la jointure de la théologie et de la spiritualité. Elle assure le rôle de l'interface. Méditer, la parole habite le cœur. Méditer, la parole nourrit. Méditer, la parole rayonne la joie. Elle réjouit et elle nourrit comme les fleurs et les fruits du jardin. Il faut méditer avec Frédéric Baudin sur les jardins et dans les jardins de l'écriture. Henri Blocher. À Arnaud, qui a aimé cette terre et contribué à la protéger pour la gloire de Dieu. Chapitre 1er. Le jardin des délices. Le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Genèse, chapitre 2, les versets 8 et 9. D'un jardin à l'autre, du paradis terrestre à celui du ciel, l'imagination nous transporte. Les images surgissent. Fleurs multicolores aux parfums enivrants, arbres majestueux, fruits en abondance, cris sonores ou sifflements discrets d'oiseaux bigarrés, prairies verdoyantes offertes en pâture à de paisibles animaux, clairières baignées de soleil, lisières ombragées où l'on vient chercher la fraîcheur, cités cristallines et demeures en pierres précieuses, hommes et femmes animés par l'amour divin. Ce jardin où il fait bon vivre est un lieu clos continuellement irrigué, dont les frontières confinent à l'infini. Dans ce jardin, en tout lieu et sur chaque créature qui marche, vole, rampe, court ou nage, se révèle une présence, la main d'un jardinier veillant sur ce lieu béni, où l'on connaît les délices des sens et de l'esprit, où chacun peut vivre en paix, où l'on ne manque de rien, où le travail même est une fête. On songe aux vers de Baudelaire. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Plus près de la réalité, à la pensée du jardin idéal, on ressent les impressions colorées de Claude Monet qui se dégage des compositions lumineuses et miroitantes inspirées de son jardin cultivé avec soin à Giverny. On contemple les jardins du monde, géométriques et ordonnés à la française, conformés au désordre apparent de la nature à l'anglaise, harmonisés à l'oriental pour recréer une petite partie de l'univers où l'homme trouve sa juste mesure. On parcourt les jardins nourriciers, ensemencés de blé ou de riz, dans les plaines et sur les collines, longues chevelures blondes et terrasses verdoyantes sous le soleil et l'ondée providentielle. Terrestre ou céleste, réel ou allégorique, des plus dégarnis aux plus exubérants, tous ces jardins sont présents dans la Bible. Le récit biblique des commencements étonne, cependant, par sa sobriété. Nulle emphase, comme dans les mythes anciens, aucune description surchargée de détails, ni trace de banquets bien arrosés, de combats titanesques ou d'unions équivoques organisées par des dieux en mal de se distraire et qui engendrent des hommes et des femmes soumis à leur destin fantasque. Rien que la voix plurielle du Dieu unique qui se fait entendre, qui ordonne et crée ex nihilo à partir de rien, le ciel et la terre, la mer, les étoiles, la lune, tous les êtres vivants, végétaux et animaux de toutes sortes, hommes et femmes. Et un refrain, déjà une première poésie. Le Seigneur se penche sur son œuvre, comme le peintre prend du recul devant sa toile. Chaque jour, il déclare qu'elle est bonne. Tov, résume l'hébreu, belle et bonne, et même très bonne. Que croire? Car c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde, assure l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. Inutile de disserter ici sur la manière dont Dieu fait surgir l'univers du néant, sur la durée de cette semaine très sainte dont le sabbat n'est pas encore achevé. Dieu se repose en ce septième jour qui dure, en même temps qu'il ne cesse d'agir rappelle Jésus dans Jean chapitre 5, verset 17. Le Seigneur a non seulement créé le monde, visible et invisible, précise le credo de Nicée-Constantinople, mais il le soutient et le dirige avec sagesse, justice et grâce, avec amour, confirment les divers auteurs de la Bible. Inutile également de prétendre donner toutes les raisons de cet effet déroutant pour notre intelligence. S'il est légitime de s'interroger sur ce mystère, les théologiens le sondent avec foi et recourent aux outils aiguisés des sciences pour mieux l'appréhender, il n'est pas certain que nous soyons capables de bien comprendre. L'humilité nous courbe jusqu'à cette terre poussière d'étoiles, humus dont nous sommes façonnés comme Adam au terme d'un long sixième jour. Nous refuserons donc de situer cet homme et sa compagne sur l'arbre généalogique des hominidés. Nous éviterons de même tout concordisme trop facile. Qu'importe, il nous suffit pour notre étude qu'il se trouve dans un jardin où ils jouissent pour la première fois en toute conscience de la communion avec Dieu. Car sur cette terre irriguée par de larges fleuves et leurs affluents, dans ce parc arboré créé par ses bons soins, Dieu leur propose une alliance et il se rend accessible. Le jardin est le lieu de son omniprésence. Mais Dieu qui est esprit ne peut se confondre avec l'homme, la femme ou la nature. Le Créateur est le tout autre, l'ultime vis-à-vis de ses créatures, le Seigneur de sa création. Il n'a pas de rival, il règne et maintient l'ordre sur le jardin où il distingue les hommes des femmes, les animaux des végétaux, le ciel de la terre. Dans cette création en six jours, la mise en ordre l'emporte en effet sur la stricte chronologie. Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il fixe les limites. Il différencie et classe les éléments ou les êtres par catégorie et il leur assigne une fonction. Laissons aux commentateurs avisés le soin d'éclairer les récits subtils de la création, sans interdire à personne une théorie plus satisfaisante que la mienne, suggère déjà saint Augustin avec modestie, tiré de saint Augustin, de la Genèse au sens littéral. Nous choisissons, non par négligence ou paresse, de nous en tenir au texte biblique dont nous relevons la maîtrise littéraire. Les premiers chapitres de la Genèse révèlent l'art d'un grand écrivain inspiré par Dieu. Il est sans aucun doute cultivé, Il connaît les traditions du Proche-Orient ancien et les règles de la prosodie. Son écriture coule comme de l'eau. Il joue sur les assonances, les allitérations et les symétries, sur les mots et sur les nombres. Le verbe « créer » bara est associé à Dieu et le chiffre 7 est manié avec équilibre pour mieux souligner l'acte créateur et la perfection divine. Il est bien difficile, à nos yeux, d'articuler cette histoire, réalité des premiers moments de l'humanité en présence de Dieu avec le symbole universel qu'elle nous transmet jusqu'à ce jour. Le type et l'archétype se superposent. Le premier couple humain à jouir de la présence de Dieu et à s'en affranchir par vanité est l'image vivante de tous les hommes et de toutes les femmes de chaque génération depuis ces jours des commencements. Nous avons tous perdu la trace de l'Éden, du jardin des délices, après que l'homme et la femme ont choisi de goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ils étaient libres, ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres de ce jardin plantés par Dieu, à l'exception d'un seul, gage de leur liberté, de leur confiance en Dieu, de leur amour. Pourquoi ont-ils donc rompu l'alliance avec leur Seigneur? Pourquoi ont-ils succombé au mensonge du plus fin des êtres créés par Dieu? C'était tentant. Vous serez comme des dieux, leur susurre le diabolos qui veut diviser cet homme et cette femme que Dieu a unis. Il va séparer ces divinités aussitôt déchues, les monter les unes contre l'autre et enfin chacune contre soi jusqu'à l'absurde et aliénante division intérieure. Et d'ailleurs, d'où vient-il cet être perfide et rusé que l'on dépeint sous les traits métaphoriques d'un serpent? Serait-ce le prince des anges ou le monstre marin, pourtant reconnu bon comme les autres créatures au premier jour, et qui s'est révolté contre son créateur? Aucune réponse n'est donnée au surgissement du mal. La mer devient le symbole du chaos ou de l'indiscipline, le lieu de refuge du monstre et des forces démoniaques opposées à Dieu. Sur terre, le flambeau du Satan brille désormais comme une lumière obscure par tant d'orages qui accuse les reliefs les plus clairs du paysage menacé par la tempête. L'ange infernal cherche à imiter le Seigneur, mais par ses contrefaçons sournoises, il veut entraîner les rois de la création dans sa chute. Image chatoyante de la séduction et de la malice, caducée ondoyant qui promet la guérison, le serpent subira le châtiment qu'il mérite. La postérité de la femme, de l'humanité, lui écrasera la tête. Il se vengera toutefois en lui plongeant ses crocs venimeux et mortels dans le talon. Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. Comment donc lui échapper et entrer de nouveau dans le jardin de Dieu? Comment renouer l'alliance avec notre Père pour retrouver le chemin de sa présence et de la communion bienfaisante de son esprit depuis qu'il a placé les redoutables kéroubim aux épées flamboyantes pour en garder l'accès? Ces chérubins n'ont rien des angelots potelés et souriants représentés par les peintres. Ces êtres décrits ailleurs par le prophète Ézéchiel ont les caractères associés de l'homme, du lion, du taureau et de l'aigle. Ézéchiel chapitre 1, versets 4 et 24, chapitre 10, verset 14. Ils portent le Seigneur et obéissent à son esprit. Ces représentants illustres de la création, rois dans leur domaine, sont les symboles de la toute-puissance de Dieu, de la création dans son ensemble, vouée au service du Seigneur et qui le célèbre par ses chants. L'homme et la femme ont bien essayé de couvrir leur nudité d'un habit de feuilles, hélas, trop fragile pour résister aux ronces et aux épines envahissant désormais le jardin. Leur travail, autrefois léger, devient pénible. Ces végétaux anarchiques poussent décidément très vite. Mais il a fallu du temps pour que le couple humain réalise qu'il n'était plus libre. L'homme et la femme se sentent soudain seuls. Ils se cachent, ils ont honte. Dieu se promène le soir. Il appelle le roi et la reine qu'il a placés dans ce jardin pour le peupler, le cultiver et le garder. La tragédie lui aurait-elle échappé? Qui donc est ce Dieu façonnant des êtres à son image, capable de penser, d'aimer et d'agir, mais qui les laisse ainsi livrés à eux-mêmes, vulnérables? Ignore-t-il qu'ils se sont soumis à la tentation d'une autre créature, sans doute supérieure aux hommes, mais qui le défie? Il les a créés libres. Il a confiance. Il les aime. L'alliance est scellée. Ils peuvent manger de tous les arbres. Ils ont accès à l'arbre de vie et à tout ce qui se mange dans chaque recoin du jardin pour se nourrir et vivre. Seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur est défendu. Inutile de chercher à décider ce qui est bien ou mal pour soi. Ils ont compris, c'est certain, par amour, par respect pour leur Père. Ils sauront qu'il leur est bon de rester dépendants de lui, leur Créateur. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas une loi pour eux-mêmes. L'autonomie est une folie. Qu'auraient-ils à gagner ces nobles et libres vassaux en rivalisant avec leur Seigneur? Où êtes-vous, mes bien-aimés? Demande Dieu, parcourant son jardin au crépuscule. Mais que faites-vous là, caché derrière les arbres? Dieu sait pourtant ce qui s'est produit. Il le sait de toute éternité, affirme l'Écriture. Allez comprendre. Le jugement de Dieu est sévère. Les enfants des coupables seront solidaires de cette faute qu'ils reproduiront et amplifieront. C'est inévitable, dès lors qu'ils sont élevés dans ce nouvel état d'esprit, rebelles, suspicieux, opposés à Dieu et incapables de croire à son amour, contraints de lutter pour leur survie dans un environnement hostile. L'acquis des parents devient l'inné des enfants. Ils commettront la même erreur. Ils romperont l'alliance avec Dieu, comme par l'effet d'une liberté illusoire mais réelle. Comprendre. Je lis quelques lignes tirées d'un texte de Pascal dans Les Pensées. Il n'y a rien qui choque plus notre raison, selon Blaise Pascal, que de dire que le péché du premier homme est rendu coupable ceux qui, étant si éloignés de cette source, semblent incapables d'y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement impossible, il nous semble même très injuste. Rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine. Sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable dans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. On peut au moins comprendre que le surgissement du mal dans ce jardin est inattendu, mais tout cela reste mystérieux. D'autant que Dieu, créateur de toute bonne chose, ne peut être l'auteur du mal. Combien de philosophes et de théologiens ont-ils tenté de réconcilier les deux faces, sombres et lumineuses, d'un miroir divin à leur image? Combien ont voulu maintenir ensemble les piliers de l'histoire de Dieu et des hommes? Bonté et souveraineté divine, mal profond et indubitable des hommes. En une belle théodicée construite pour durer, toutes menacent de s'écrouler, les plus savantes, les plus belles, les plus naïves. Faut-il échafauder une nouvelle théorie pour rendre compte du mystère? Cela est inutile et incertain, pour reprendre les termes de Pascal appliqués à la philosophie raisonnable de Descartes. Nous en resterons là, sans réponse vraiment satisfaisante pour notre esprit avide de savoir et de bien conduire sa pensée. Le jugement divin paraît injuste. Il s'étend à tout être humain. La nature de l'homme, comme celle du jardin, est affectée. Nous avons perdu la raison. Nous sommes devenus les êtres de l'écart, suggère le professeur Jean Brun dans son analyse de la philosophie de Pascal. On définit toujours l'homme comme un être raisonnable. Or, il ne s'agit là que d'une définition idéale dont l'homme ne cesse de s'écarter. Jean Brun, la philosophie de Pascal, aux éditions Que sais-je. Les êtres humains s'égarent en quelques lieux de la planète où ils choisissent de résider ou de vagabonder. Dieu a fermé la porte de l'accès à sa présence. L'entrée de cette partie du jardin est bien gardée. La terre produit toujours des plantes. Elle abrite et nourrit tout être vivant. Les hommes et les femmes peuvent se multiplier et remplir cette planète qu'ils sont tenus de cultiver et de garder. Ils doivent dominer et soumettre les végétaux et les animaux confiés à leurs bons soins. Le mandat qui leur était adressé par Dieu au premier jour de leur union demeure, après leur révolte, après qu'ils ont consommé la rupture de l'alliance et de la communion avec leur Père. Il est simplement plus difficile à mettre en œuvre. La mort spirituelle a commencé en nos lointains ancêtres, son œuvre de fatigue, de maladie, de corruption, de division et de rivalité. Dieu ne laisse cependant pas les hommes et les femmes totalement désemparés, sans défense et sans espérance. Il leur donne la grâce d'avoir des enfants, d'exploiter la terre et d'élever des troupeaux, de forger des outils et d'exercer leurs talents artistiques. Avant même qu'ils ne sortent du jardin de sa présence, il les couvre d'un manteau de peau. Nombreux sont les commentateurs qui voient dans cette précision une réalité dont le symbole apparaît dans la Bible tout entière. Ce manteau proviendrait de la peau d'un animal sacrifié par Dieu lui-même pour revêtir l'homme et la femme d'un habit plus résistant aux ronces et aux épines qu'un simple pagne végétal. Le jardin est en friche. Les ronciers prolifèrent, anarchiques, infranchissables et menaçants. Mais déjà, on peut sentir le parfum subtil d'une rose aux pétales délicats défiant les épines sévères et agressives. On peut cueillir les mûres noires au goût sucré à l'endroit même où l'on hésite à plonger la main de peur qu'elle ne soit déchirée. Là où le péché a abondé, s'exclamera un jour l'apôtre Paul, la grâce surabonde. Romains chapitre 5, verset 20. Fleurs et fruits jalonneront désormais le chemin qui mène au jardin de Dieu, qui nous conduit à la présence bienfaisante du Créateur, à la communion régénératrice avec son esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons terminé ce premier chapitre qui nous a permis de partager quelques moments dans le Jardin des Délices, tel qu'il nous a été présenté dans Genèse 2. Je relis quelques mots seulement. Le jardin est en friche. Les ronciers prolifèrent, anarchiques, infranchissables et menaçants. Mais déjà, on peut sentir le parfum subtil d'une rose aux pétales délicats, défiant les épines sévères et agressives. On peut cueillir les mûres noires au goût sucré à l'endroit même où l'on hésite à plonger la main, de peur qu'elle ne soit déchirée. En contraste, je reprends quelques lignes, bien sûr. Ce jardin qui est en friche, la grâce qui surabonde, voilà pour l'avenir. Mais notre prochaine lecture, celle du chapitre 2 du livre, passe d'abord par un état de lieu qui n'est pas forcément très réjouissant, puisqu'il aura pour titre « Le jardin sans Dieu ». C'est un jardin que nous allons explorer les uns après les autres. N'oubliez pas de vous brancher sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, en DAB+, pour le direct radio, mardi et mercredi à 21h30, avec rediffusion les lundis et mardis suivants à 6h. Ou retrouve-nous dans les podcasts. Bien sûr, écoutez l'émission « Je lis pour vous ». À bientôt, chers auditeurs.